Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza ainsi que la libération sans condition de tous les otages. Nous reviendrons sur les conditions de l'adoption de cette résolution avec Loïc Loury. Au Sénégal, le candidat du pouvoir, Amadou Ba, a reconnu sa défaite. Avec Omar Ouamane, nous analyserons les événements qui ont permis cette ascension. Après l'attentat de Moscou, Gabriel Attal annonce le déploiement de moyens exceptionnels en France contre la menace terroriste islamiste. Il précise que deux projets d'attentat ont été déjoués depuis le début de l'année. Nous parlerons de la filière bois dans la chronique Demain l'écho, alors que la France exporte du chêne brut et importe du bois transformé. Annabelle Grelier nous parlera d'un parc innovant, emboîtable et réutilisable fabriqué en France. Israël vient d'annuler la visite d'une délégation attendue à Washington. Une réaction de colère après l'annonce de l'adoption d'une résolution des Nations Unies exigeant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Bonsoir Chloé Gloury.
Bonsoir Aurélie.
Vous êtes en direct de New York. Après les attaques terroristes du 7 octobre, Israël avait juré de détruire le Hamas. Après plus de 5 mois de guerre, la situation est critique pour la population civile dans la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est donc une nouvelle fois réuni pour étudier un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat. Et pour la première fois, Loïc, le projet a été voté.
Oui, absolument. Après les vétos russes et chinois vendredi, eh bien, aucun membre permanent du Conseil ne s'est opposé cette fois-ci au passage de cette résolution qui exige donc un cessez-le-feu immédiat pour le mois de Ramadan menant à un cessez-le-feu durable. Il réclame aussi la libération inconditionnelle des otages et la levée de tous les obstacles à l'aide humanitaire. Ce texte, Aurélie, est le fruit du travail de 8 des 10 membres non permanents du Conseil de sécurité. On sait aussi qu'ils ont repoussé le vote prévu samedi pour négocier tout le week-end avec les États-Unis afin d'éviter un veto américain. Certaines sources diplomatiques avaient exprimé leur optimisme en amont de la séance de ce matin et c'est donc gagné bientôt 6 mois après le début de la guerre à Gaza.
Est-ce qu'on peut clairement dire qu'il y a un changement de ton de la part des États-Unis vis-à-vis d'Israël ?
Oui, alors écoutez, la Maison-Blanche, elle s'en défend en tout cas. Washington souligne d'ailleurs ne pas avoir voté pour, mais s'être abstenu. On a tout de même un petit peu de mal à le croire. Le texte présenté la semaine dernière déjà par Washington, qui évoquait la nécessité d'un cessez-le-feu, et malgré un vocabulaire un peu ambigu, avait montré que les États-Unis perdaient de leur patience à l'égard d'Israël. C'est donc confirmé aujourd'hui, après 3 vétos des Américains à des textes qui appelaient à un cessez-le-feu immédiat, eh bien Washington a finalement transigé. La pression très clairement s'accroît désormais sur Israël. Il est rarissime de voir les États-Unis aller contre leur allié devant les Nations Unies. Tout cela, évidemment, va laisser des traces dans la relation entre les deux pays. Vous le disiez d'ailleurs, Israël a immédiatement annulé la visite d'une délégation attendue à Washington.
Merci Loïc Loury. Vous étiez en direct de New York. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, salue l'adoption par le Conseil de sécurité de cette résolution. Il dit qu'elle doit être appliquée. Un échec sera impardonnable. Et puis l'ambassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière, félicite le Conseil d'être sorti de son silence, je cite, assourdissant. Il plaide pour que ce cessez-le-feu immédiat pour le Ramadan soit suivi par un cessez-le-feu permanent. Une page se tourne au Sénégal. Au lendemain du premier tour de la présidentielle, les résultats officiels tombent à peine que le candidat du pouvoir, Amadou Ba, concède sa défaite. C'est donc le candidat anti-système, Bassirou Diomaye Faye, qui va devenir le président, lui qui était encore en prison il y a 10 jours et qui n'était que le lieutenant de l'opposant Ousmane Sonko. C'est une première dans le pays, Omar Ouamane.
Oui, c'est la fin d'un long suspense. Le 5e président sénégalais s'appelle Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, inspecteur des impôts. Il l'emporte dès le premier tour. Amadou Ba, le candidat de la majorité présidentielle, a reconnu sa défaite. Il a appelé son adversaire pour le féliciter. C'est inédit. Les Sénégalais ont porté au pouvoir le plus jeune président de la République de leur histoire. Il succède à Macky Sall, dont le deuxième mandat s'achève le 2 avril prochain. Une victoire historique, car le Sénégal a connu plusieurs rebondissements ces dernières semaines. Le report de ce scrutin présidentiel qui devait se tenir le 25 février avant une mobilisation de la société civile et de la jeunesse. C'est le Conseil constitutionnel qui a invalidé ce report et permis la tenue de l'élection et la victoire de Bassirou Diomaye Faye, dont le programme repose sur le rétablissement de la souveraineté nationale, la sortie du franc CFA ou encore la renégociation des accords de pêche et de défense. Un projet plébiscité par une majorité des électeurs.
Et Bassirou Diomaye Faye a remporté l'élection présidentielle au premier tour avec 53,7% des voix. C'est ce que dit la commission électorale après le décompte des suffrages de quelque 90% des bureaux de vote. Après les multiples problèmes de sécurité de ces derniers mois, Boeing se sépare de son patron. L'avionneur américain annonce un remaniement de sa direction. La correspondance à Washington de Sébastien Paour.
Dave Calhoun n'aura pas réussi à restaurer la confiance en 4 ans de mandat. Il est arrivé en janvier 2020 à la tête de Boeing après les 2 accidents mortels de 737 MAX, 346 morts en 2018 et 2019. Il quittera son poste de directeur général à la fin de l'année avec le directeur de la division commerciale de l'avionneur américain. Mandat entaché de plusieurs incidents. D'abord, la porte d'un vol Alaska Airlines arrachée pendant le décollage, puis l'audit de l'agence américaine de l'aviation civile sur le contrôle qualité du géant de Seattle, des problèmes de non-conformité repérés dans le contrôle de production, des trous mal percés sur les fuselages des 737 et les retards et surcoûts colossaux pour le prochain appareil présidentiel Air Force One. Autant de problèmes qui ont contraint l'entreprise de 170 000 salariés à freiner ses cadences. Boeing devrait produire 15 737 par mois en ce début d'année, moins de la moitié des avions qu'il produisait à la fin de l'année dernière. L'action Boeing a chuté de plus de 25% depuis le début de l'année à Wall Street.
Une bouffée d'air pour Donald Trump. La cour d'appel de l'État de New York ramène à 175 millions de dollars la somme que le milliardaire doit payer à la suite de sa condamnation au civil pour fraude financière. La cour a donné 10 jours à l'ex-président condamné avec ses fils à 454 millions de dollars d'amende pour fraude financière au sein de leur empire immobilier Trump Organization pour rassembler cette somme. Bruxelles ouvre une nouvelle enquête contre les principaux géants du numérique. Les services de la Commission européenne ont longtemps dialogué avec Apple, Meta ou encore Facebook pour qu'ils se mettent en conformité avec les règles du Digital Market Act qui est entré en vigueur début mars. Mais aujourd'hui, Angélique Bouin, la Commission constate que ces géants du numérique n'ont toujours pas fait les efforts attendus.
La Commission discute depuis des mois avec les GAFAM de leurs nouvelles obligations. Il y a eu des changements, mais pas assez. Google enfreint toujours le droit de la concurrence en renvoyant trop souvent les internautes qui cherchent un avion ou un hôtel vers son propre système d'offres. Apple continue également, selon Bruxelles, d'imposer ses propres applications, alors que la loi européenne prévoit que chacun désinstalle facilement ce qui ne lui convient pas. Enfin, Amazon est soupçonné de toujours privilégier ses marques et Meta d'utiliser sans consentement assez éclairé les données personnelles des utilisateurs de Facebook et Instagram. L'ouverture de 5 procédures distinctes est un nouveau coup de semonce pour les géants du numérique, soupçonnés de traîner les pieds pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles, règles qui visent à lutter contre les monopoles, à protéger les consommateurs, mais aussi à lutter contre la désinformation. Ils ont pourtant été bien prévenus, explique le commissaire européen Thierry Breton.
La loi est la loi. Elle a pris personne par surprise. Cette loi, elle est faite pour corriger ce qui nous semble pas aller dans le sens de l'intérêt général. Et derrière, c'est aussi la protection de nos concitoyens, que ça ne peut pas attendre, dans des contextes de guerre, dans des contextes d'élections aussi, de désinformation.
Les géants du numérique contestent les accusations de non-conformité relevées aujourd'hui et annoncent vouloir poursuivre leur dialogue avec la Commission.
Angélique Bouin à Bruxelles. Gabriel Attal annonce le déploiement de moyens exceptionnels partout sur le territoire pour prévenir des attaques terroristes islamistes. La menace est réelle, elle est forte, elle n'a jamais faibli, déclare le Premier ministre. Le dispositif Vigipirate a été relevé à son niveau maximal après l'attentat dans une salle de concert près de Moscou. Vladimir Poutine a pointé une responsabilité de l'Ukraine, mais cette attaque qui a fait 137 morts a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique et sa branche afghane est la première suspecte pour les experts du terrorisme mondial. Or, Emmanuel Macron a précisé tout à l'heure que cette branche, le groupe État islamique au Khorassan, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur le sol français. Cette branche, qui est née il y a une dizaine d'années, est considérée aujourd'hui comme la plus active. Et selon Jenny Raflik, professeure d'histoire des relations internationales à Nantes, elle représente bien une menace sérieuse pour la France.
L'attentat qui a eu lieu à Paris le 2 décembre dernier, l'auteur franco-iranien s'est revendiqué de cette branche. L'enquête est toujours en cours. Et puis, Emmanuel Macron l'a confirmé ce matin, d'autres tentatives. En fait, la menace qui pèse sur la France aujourd'hui, elle est double. Il y a la menace d'attentat qui s'est passé à Moscou, c'est-à-dire un attentat bien organisé par un commando bien structuré, voilà, quelque chose qui vient de l'extérieur et de très grande ampleur. Et puis, il y a les petits attentats, en fait, qui vont être inspirés à des gens radicalisés par la communication, la propagande. Malheureusement, la France peut être ciblée par les deux. Et le contexte des Jeux Olympiques en particulier en fait une cible privilégiée.
Et cette branche, Khorasan, fait partie des menaces concrètes et réelles pour la France.
Voilà, elle fait partie des menaces concrètes et réelles. Les attentats déjoués, ou bien ce qui s'est passé en décembre dernier, l'attestent. Hein, il y a une menace réelle de cette branche qui est très active. Dans les membres, se sont illustrés par des attentats particulièrement sanguinaires par le passé, que ce soit en Iran, au Pakistan ou en Afghanistan, ou bien là, ce qui s'est passé à Moscou. Donc la menace est évidemment très importante. Ce sont des gens qui sont déterminés et qui n'ont pas peur de prendre des risques pour agir.
Jenny Raflik, auteure du livre « Terrorisme en France » paru aux éditions du Cerf. Elle était jointe par Florence Turm. Les alertes se multiplient depuis jeudi dernier dans des collèges et des lycées. Près de 130 menaces d'attentats via les espaces numériques de travail ont été recensées. En Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et dans la région Grand Est, des alertes à la bombe ont entraîné l'évacuation de certains établissements. Emmanuel Macron est arrivé ce matin en Guyane où il passe une trentaine d'heures avant une visite d'État au Brésil. Et après la colère des agriculteurs dans l'Hexagone, le président a dû entendre celle des pêcheurs guyanais. À Cayenne, le chef de l'État s'est rendu au marché aux poissons et la halle voit ses allées se vider à cause de la concurrence des pêcheurs du Brésil et du Suriname, les pays voisins. Une pêche qui est illégale mais en pleine augmentation, Maxence Lambrecq.
La moitié des stands sont fermés, le paradis de la mer est encore ouvert, mais pour combien de temps? Léonard Ragnaud, patron du comité des pêches.
Ce poisson, c'est comme le bar, et le bar on le trouve à 14 euros en France, c'est l'équivalent. Et aujourd'hui à 7 euros, c'est parce qu'on n'a vraiment pas le choix, jamais on peut être rentable.
Diviser les prix par deux pour affronter la concurrence déloyale.
Et ce fait où cette vente illégale?
Juste à côté.
Juste à côté, okay.
À 50 mètres. Moi,
et qui tient ce marché illégal pour le coup?
Plutôt surinamais et brésiliens?
Brésilien,
des Brésiliens qui tuent le marché.
Même nous, restaurants, on a parfois du mal à se fournir en poisson guyanais.
On va intensifier à la fois les contrôles et les destructions de navires qui vous font la concurrence.
Une promesse reçue avec scepticisme.
Ça fait 25 ans que ça. Moi, je veux voir les actes.
Alors, la pêche illégale, quand
ça
on regarde les choses.
Ça fait 25 ans que ça dure.
Là, on le détruit, on a baissé les chiffres.
Les chiffres n'ont pas baissé. 39 navires. Moi, je veux être franc avec vous. Les gens qui sont sur le terrain, ils ne sont pas représentés.
Mais ils ne peuvent pas faire des réunions de suivi avec 280 000 Guyanais.
Pendant des années, Bruxelles a refusé l'achat par la France de nouveaux navires. Cette fois, c'est bon. Il promet 25 bateaux sous le regard de Christiane Taubira.
On verra s'il n'y aura pas derrière ça des nœuds qui vont rendre impossible la faisabilité de cette annonce. Moi, j'ai envie d'être optimiste, donc je dis tant mieux.
L'ex-ministre ne joue pas le bras de fer, à l'image d'une Guyane bien plus calme qu'en 2017, presque indifférente à cette visite.
Maxence Lambrecq à Cayenne pour France Culture. Au lendemain de la diffusion sur M6 d'un documentaire sur les défaillances de l'État dans le secteur du handicap, le gouvernement a dévoilé aujourd'hui la stratégie nationale de lutte contre les maltraitances sur les personnes vulnérables, qu'il s'agisse de personnes âgées vivant à domicile ou en EHPAD, ou de personnes handicapées dépendantes prises en charge dans des établissements spécialisés. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir à tous.
La ministre Fadila Kabati promet notamment une campagne de contrôle systématique dans les établissements médico-sociaux hébergeant des enfants ou des adultes handicapés. Comment sont perçues ces annonces, Tara ?
Eh bien, les associations sont conscientes des failles du secteur de l'accompagnement, mais une fédération d'associations comme par exemple l'UNAPI, qui se trouve auprès des personnes souffrant de troubles du neurodéveloppement et qui accompagne donc 200 000 personnes environ, estime que le gouvernement est presque hors sujet en annonçant ces contrôles. Sophie Billette est membre du conseil d'administration de l'UNAPI.
Bien sûr, à la marge, il y a toujours des erreurs humaines, peut-être des maltraitances qui sont des vraies maltraitances, mais c'est quand même pas c'est un problème, mais c'est pas le problème qui sous-tend tous les dysfonctionnements. Quand votre enfant a besoin d'un accompagnement, quelquefois 24/24, que les parents, s'adressent à multiples services et qu'à chaque fois tous les services vous disent qu'ils n'ont pas de place, voilà, je vois pas d'autre réponse que de développer des services, quoi.
Autrement dit, les associations leur martèlent depuis longtemps, le problème vient d'un manque de moyens institutionnels. Dans le handicap, par exemple, il n'y a plus d'ouverture de nouvelles institutions, mais dans le même temps, les personnes sont aussi insuffisamment accompagnées dans le milieu ordinaire qu'elles sont censées rejoindre. Et puis, il y a aussi tout simplement un manque de moyens, Sophie Billette.
quand un service existe mais qu'il est sous-équipé, voilà, s'il doit y avoir 3 professionnels, par exemple, pour s'occuper d'un petit groupe et que ce professionnel se retrouve tout seul, bah, c'est sûr qu'il va faire les choses plus vite, il va pas être aussi bien traitant qu'il le voudrait. Et ça n'attire pas les professionnels pour venir y travailler. Vous voyez, en fait, c'est un cercle vicieux.
Pour elle, les contrôles ne sont donc pas une mauvaise chose en soi, mais ils ne pourront certainement pas régler la question de la maltraitance faite aux plus vulnérables.
Tara Schlegel. Ce matin sur France Culture, le journal de l'Écho faisait le point sur l'état des forêts françaises. La filière bois souffre du changement climatique et des tensions d'approvisionnement. Elle représente 400 000 emplois directs et 60 milliards de chiffre d'affaires, mais ne répond pas aux besoins de secteurs clés comme le BTP. Avec peu d'industries de transformation, surtout dans le feuillu, on se retrouve le plus souvent à exporter du bois brut pour importer ensuite du bois transformé qui n'a pas été valorisé en France. Alors, quelle solution ? La chronique Demain l'écho nous emmène chez un spécialiste du chêne et du parquet, implanté à 2 pas de la forêt de Troncet, dans le Cher, où l'entreprise Centre Bois Massif a mis au point un parquet réutilisable, Annabelle Grelier.
Le bois chez les Deschaumes est une affaire de famille. Samuel Deschaumes, 4e génération à la tête de l'entreprise, mise sur l'innovation pour faire face au réchauffement climatique. Avec lui, le parquet qu'il a baptisé Naoflore ne sera plus clouté ni collé, mais emboîté.
C'est un parquet massif, et pourtant Naoflore, regardez, c'est surtout ça. Un geste qui vous permet en fait de démonter et de remonter autant de fois que vous voulez à vie la lame du parquet. C'est-à-dire que pour la première fois, vous avez un revêtement de sol biosourcé qui est démontable, réemployable et réutilisable. Et ça, c'est une rupture de notre métier, puisque pour la première fois, on va vraiment utiliser les fonctions environnementales du parquet. Non seulement il va donc permettre de couper 3 fois moins d'arbres, de stocker 3 fois plus de CO2 en forêt et 3 fois plus longtemps. Donc c'est bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour votre portefeuille et c'est bon pour nous, parce qu'il n'y a plus de colle pour la pose, donc plus aucun produit chimique. Ça se pose aussi facilement qu'un stratifié. Et on va tout simplement mettre une sous-couche que vous voyez là. Et ça, c'est une sous-couche en liège plus caoutchouc recyclé, très important chez nous. Et vous posez directement en Naoflore.
Ce parquet en chêne massif est le seul matériau de construction à avoir obtenu le quadruple A du Conseil scientifique et technique du bâtiment. S'il paraît simple, le produit est obtenu grâce à une technique d'usinage complexe et brevetée.
C'est pas un clips, comme vous connaissez un petit peu sur les parquets contrecollés. C'est vraiment un emboîtement qui a en fait un arc-boutant qui a été travaillé avec beaucoup, beaucoup d'angles. Et on travaille au 1/100 de millimètre pour l'usiner. Et cet arc-boutant va permettre d'avoir non seulement la stabilité, mais va permettre au bois de bouger. Et c'est là qu'est tout le secret, parce qu'il y a plein de gens qui ont essayé déjà ça. Mais en fait, ils bridaient le bois, et le bois, faut jamais le brider.
Pour s'ouvrir les portes de ce marché plein d'avenir, le projet nécessite de disposer de l'énergie bon marché pour faire tourner un séchoir et les machines. Engagé dans la décarbonation, Samuel Deschaumes a modernisé son usine. Filtration accrue des poussières de bois, production d'électricité verte grâce à une nouvelle chaudière biomasse à cogénération d'énergie. L'innovation a reçu le soutien du programme France 2030, 10 millions d'euros au total, avec la création d'un nouvel outil de travail.
Donc là, vous voyez une machine qui est unique au monde, parce que l'usinage qui est fait pour faire cette fameuse languette de Naoflore, c'est donc ce qu'on appelle un usinage négatif. Il fallait être capable de le faire au défilé, en long, si vous préférez, pour que ce soit économiquement viable. Parce qu'un des gros plus de Naoflore, c'est qu'on ne le vend pas 1 € plus cher qu'un ancien parquet. L'idée, c'est de rendre Naoflore le plus vite possible disponible, parce que à chaque fois qu'on achète un parquet en Naoflore, on agit directement sur notre forêt, donc sur notre planète.
Labellisé Origine France Garantie, ce parquet ne sera produit qu'en chêne français, issu de forêts gérées durablement. Samuel Deschaumes, qui dénonce depuis des années la fuite des grumes de chêne français à l'étranger, entend, avec cette innovation, contrer les exportations de bois vers la Chine tout en revalorisant la production locale.
On sait qu'on a le potentiel de production d'avoir un énorme volume. Donc, on va créer des contrats avec l'État, avec les propriétaires forestiers, avec les scieurs, qui vont permettre de monopoliser la matière en amont de leur mise en marché pour qu'elle approvisionne les industries françaises du bois, et ce qui fait que cette matière-là ne sera pas mise sur le marché. Donc, c'est autant de volume que les Chinois ne pourront pas venir préempter, puisqu'ils ne seront pas mis en vente publique.
Même s'il entend révolutionner le marché mondial du parquet et d'en devenir le premier fabricant européen, le chef d'entreprise vise une croissance raisonnée avec une production en circuit court. À l'étranger, son parquet sera donc vendu sous forme de licence. À Saint-Pierre-les-Étieux, en ce mois de mars, la production vient d'être lancée. Naoflore a reçu sa toute première commande des propriétaires du château d'Ainay-le-Vieil, descendant de la famille de Colbert, ministre visionnaire à l'origine de la forêt de Troncet.
Annabelle Grelier, dont la chronique Demain l'écho est disponible sur l'appli Radio France et sur le site de France Culture. Météo France annonce pour demain un ciel gris et pluvieux avec des pluies soutenues et localement orageuses de l'est de la vallée du Rhône vers les Cévennes et en Corse. Le vent soufflera en rafale sur le pourtour méditerranéen et l'Hérault sera placé en vigilance orange aux vagues submersions. Il fera entre 3 et 10 degrés au petit matin. Les maximales atteindront 9 à 16 degrés. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.